Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous retrouver dans Radio Foot International, dans votre émission qui vous parle chaque jour de football et aujourd'hui encore. Et sachez-le, n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous regarder, nous suivre à travers Facebook Live. Et si vous aimez ce que vous voyez, eh bien vous pouvez partager. Alors aujourd'hui, sommaire de l'émission du jour et de nos débats, les demi-finales de la CAN, Sénégal-Tunisie pour ouvrir le bal. Dimanche en fin de journée, juste avant Algérie-Nigeria, soit trois des équipes mondialistes de la Russie dans le dernier carré de la compétition africaine. Les Lions atteindront-ils la finale ou bien les Aigles de Carthage créeront-ils la surprise pour finir en beauté, comme l'a dit leur sélectionneur. Quant aux étonnants Fennec qu'on a vu en souffrance hier, se déferont-ils des Super Eagles habitués des finales? Eh bien, nous en parlerons dans Radio Foot aujourd'hui. Nous évoquerons aussi, petite échappée dans le football européen, Antoine Griezmann, tout nouveau Blaugrana. Le club catalan vient d'annoncer l'arrivée de sa nouvelle recrue payée 120 millions d'euros. Verra-t-on bientôt Grisou à l'entraînement aux côtés de Lionel Messi? Et Neymar entrera-t-il dans la MSG qui se dessine au Barça? Ce matin, en tout cas, il a reconnu depuis le Brésil qu'il voulait quitter le Paris Saint-Germain. Enfin, lui joue toujours à Madrid, le numéro 9 indéboulonnable depuis 10 ans. Karim Benzema, le merengue, sera-t-il le leader d'un Real en reconstruction avec Zinedine Zidane? Nous en parlerons aussi et notamment eh bien, avec notre duo d'artistes, ils sont là aujourd'hui. Rémi Ngono et Xavier Barré, bonjour messieurs.
Bonjour Annie, bonjour à toutes les téléspectatrices et surtout bonjour aussi aux téléspectateurs.
Aujourd'hui, vous pensez à eux. Bonjour,
bonjour
Xavier.
Bonjour à tous. Et il ne fallait pas rater cette émission pour l'arrivée de Griezmann à Barcelone.
Exactement. Notamment, il y a toujours plein d'informations dans Radio Foot International, mais aussi dans notre monde du football. Franck Simon, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Franck, toujours là, notre camarade de France Football. Et puis le réfé, aujourd'hui, s'est dit, tiens, allez, je vais passer une petite tête dans Radio Foot International.
Ça faisait un moment que j'annonçais l'arrivée des Griezmann, donc je n'allais pas rater le jeu.
Surtout pas. Bonjour Alejandro Valente. Radio Foot, c'est parti.
Égypte 2019.
Et vous entendez autour de nous, oui, les cris de joie
des supporters sénégalais.
L'arbitre siffle la fin de cette rencontre et la qualification du Nigeria.
Et l'Algérie est en demi-finale.
Oh, et c'est la fin.
C'est fini.
Le banc tunisien qui se lève.
En tout cas, on connaît l'affiche complète de ces demi-finales. Ce sera Sénégal-Tunisie, stade des 30 juin. Et 21h, sera Algérie-Nigeria au stade international.
Nos camarades, tous nos envoyés spéciaux de RFI dont vous pouvez écouter évidemment les commentaires de tous les matchs retransmis sur notre chaîne. Alors il ne reste plus qu'une semaine de compétition, une semaine pour les écouter aussi. Avant le dénouement final de la Coupe d'Afrique des Nations et plus que quatre équipes en jeu pour un seul trophée bien sûr. Ainsi, nous aurons une demi-finale Sénégal-Tunisie dimanche en fin de journée au stade du 30 juin avant la confrontation Algérie-Nigeria au stade international du Caire espérant que les tribunes seront bien garnies dans tous ces stades parce que vous l'avez vu pendant la compétition, malheureusement les supporters égyptiens n'étaient pas vraiment au rendez-vous, ou les spectateurs en tout cas. Une constatation, et j'aurais bien aimé votre commentaire à ce sujet, des quatre semi-finalistes, trois étaient en Russie l'an dernier. Cette CAN confirme-t-elle leur statut de mondialiste? Franck Simon.
Forcément. C'est bien de, dans la foulée d'une Coupe du Monde, de rebondir sur une phase finale de Coupe d'Afrique et qui plus aide à aller loin dans le tournoi. Voilà, de confirmer qu'on fait partie du haut de la hiérarchie continentale qui a quand même été pas mal bouleversée, on le rappelle. Hein. On a perdu le champion d'Afrique, le vice-champion d'Afrique, donc le Cameroun, l'Égypte, le Maroc a été sorti également. Donc,
des semi-finalistes de l'année dernière, il y en a pratiquement plus.
Il ne reste plus personne. C'est ce qui prouve quand même que cette hiérarchie était pas mal chamboulée, mais elle l'était déjà en fait au stade des quarts de finale, parce que sur les huit présents, ne restait que Sénégal et Tunisie d'il y a deux ans et demi au Gabon. Donc voilà, c'est pour dire que pour eux, c'est bien de confirmer, rappeler qu'eux étaient bien présents et qu'ils ont continué. Ils ont plutôt avancé, certains à une vitesse un peu plus, contrôlée, voilà, lente comme la Tunisie, mais ouais. Ils sont bel et bien présents, même si le tableau leur a été favorable, mais ils ont fait le boulot.
Rémi, c'est une confirmation pour vous ?
Oui, c'est une confirmation au regard de ce qu'on a vu à la Coupe du Monde. N'oublions tout de même pas que le Nigeria pouvait se qualifier devant l'Argentine. Et n'eût été un arbitre qui était fantaisiste. N'oublions pas quand même que la Tunisie.
Alejandro est assis à côté de vous.
N'oublions pas quand même que la Tunisie a fait aussi bonne impression au niveau de la Coupe du Monde, et sans pour autant oublier que actuellement le Sénégal produit ce qui a de très beau au niveau du football. Quand vous regardez sur le plan des individualités, Sadio Mané, il n'y a pas mieux actuellement en Afrique. Je suis désolé pour Salah. Mais il n'y a pas mieux, vous regardez sur chaque ligne, c'est-à-dire vous allez voir au niveau du milieu de terrain, que ce soit Gueye aujourd'hui que tout le monde veut, Ndiaye qui est un vrai boulon, ou encore Kalidou, vous voyez que toutes les grandes écuries veulent de ces joueurs-là. Et je vois donc que, effectivement, c'est les meilleurs qui sont là, ce n'est pas voulu, c'est logique, c'est dans la continuité.
Xavier, effectivement, ces équipes, on les avait vues à la Coupe du Monde, on les avait suivies, évidemment, l'année dernière, et on avait eu l'impression qu'il manquait pas, alors il manque toujours quelque chose, mais en même temps, elles avaient pas fait des, elles avaient pas été ridicules à la Coupe du Monde, ces
Sénégal
trois équipes africaines.
Le Sénégal, il faut le rappeler, a été éliminé au fair play, seulement, la saison dernière. Mm-hmm. Le Nigeria, a été sorti par l'Argentine, dans des circonstances,
que Rémi nous expliquait. Parce que quand donc, l'Argentine perd, eh bien, Lionel Messi nous dit que, et il y a la corruption des arbitres, là, il y avait corruption. Elle refait, vous n'avez plus rien à nous dire. Messi nous a prouvé qu'il y a la corruption, que vous la connaissez là-bas.
Alejandro, il n'est pas arbitre, hein, je vous rassure.
Et on retrouve le Sénégal et le Nigeria en demi-finale cette fois-ci. Donc, je pense qu'en fait, le fait que la Coupe d'Afrique des Nations ait lieu en janvier, tous les deux ans, ça pouvait perturber un petit peu la hiérarchie du football africain. Mais si on regarde les représentants africains dans les phases finales de Coupe du Monde au cours des 5 dernières éditions, on retrouve pratiquement toujours les mêmes équipes, à part en 2006 où il y avait eu un grand chambardement.
Il y avait le Togo, l'Angola.
Le Ghana pour la première fois, qui depuis s'est installé. On retrouvait pratiquement toujours le Cameroun,
le Nigeria,
les sélections du Maghreb. Donc, on retrouve pratiquement toujours les mêmes équipes, et c'est assez logique finalement de retrouver ces équipes-là dans le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations.
Alejandro.
Je vois Rémi et Xavier qui veulent nous laisser l'impression que les équipes africaines ont fait une bonne Coupe du Monde. Quand je rappelle que les 5 équipes africaines avaient été éliminées dès le premier tour.
5
équipes africaines qui étaient à la Coupe du Monde. Mm-hmm. Et donc, on peut pas dire que le niveau soit excellent. Et finalement, on a vu dans cette CAN que ces équipes restent dans le haut du panier africain, mais que des équipes qui sont beaucoup moins fortes, beaucoup moins expérimentées, comme Madagascar ou les Bénins, ne sont pas bien loin. Donc, finalement.
Qui avait été battu par l'Argentine 4-1 là.
Qui avait battu l'Argentine.
Qui avait été.
Le Nigeria, qui est toujours là.
Les équipes africaines n'ont pas de niveau. L'Argentine, mais attendez, qu'est-ce que l'Argentine a produit devant le Nigeria? C'est pour ça que je suis en train de dire que quand nous regardons, logiquement, et d'ailleurs, Xavier Barré a eu à le rappeler, le Sénégal est éliminé sur une affaire de fair play, c'est-à-dire que c'est un jeu de loterie. L'Argentine se retrouve là sur une poussée de l'arbitre. Donc, une certaine période, soyez objectif, LRFA, vous avez volé cette place-là à l'Afrique. Et heureusement, aujourd'hui, vous-même, vous êtes venu nous dire ce qui se passe avec les grandes nations qui sont protégées par la corruption.
Franck.
Annie, si vous me le permettez, une fois n'est pas coutume. Je vais pas être d'accord avec Alejandro. C'est-à-dire qu'en fait, ça sert pas à grand-chose de comparer les résultats, les performances de la Coupe du Monde et celle de la Coupe d'Afrique. C'est de voir effectivement plutôt celles qui se sont maintenues. Alors si par exemple le Réfé nous avait dit, bah vous voyez le Maroc qui avait pas été si pourri que ça, il y a un an en Russie, bah le Maroc s'est effondré. Alors que ça avait été une équipe qui avait montré des choses intéressantes. Le Maroc s'est effondré. Logiquement. En revanche, les autres équipes qui avaient des prédispositions, on savait, même si elles n'ont pas été performantes en Coupe du Monde, qu'elles le seraient en Coupe d'Afrique à condition de se qualifier, ce qu'elles ont fait.
Penalty, on ne serait pas en train de dire que le Maroc s'est effondré.
Ouais, mais enfin, ça n'a pas été quand même du Maroc transcendant. On en était loin, même en éliminatoire.
À la Coupe du Monde, c'était pas un Maroc flamboyant non plus. C'est un Maroc qui jouait défensif, solide.
Ah, non, 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 non,
non, non, non, non, non.
Si. Bon, mais c'est un Maroc qui avait pu, qui avait pu justement, en s'appuyant sur la valeur de sa défense, déranger les adversaires.
Vous avez vu qu'il y a un
Maroc sur les demi-finales.
Bien sûr. C'est vrai? Rémi.
Mais
attendez. C'était un Maroc. C'est au Maroc qui avait le plus de nombre de tirs. C'est-à-dire qu'à chaque match, c'était 14 tirs et 16.
Sur des contres.
Mais quand même,
sur des contres.
Mais qu'est-ce que vous dites?
Il suffisait une
équipe qui joue en défensive. Vous ne pouvez pas jouer défensif.
On attend du Maroc qui prenne plus l'initiative du jeu.
On parle plus du Maroc, on parle des équipes qui sont qualifiées pour les demi-finales. Alors, on y va. Si vous les regardez sur Facebook, là, vous allez voir, ça les fait rire hein, de s'engueuler comme ça et de vous prendre à témoin. Les Lions de la Teranga au rendez-vous, cela n'était pas arrivé, en tout cas depuis 2006, mais les Sénégalais ont d'autres ambitions, ils osent le dire. Sont-ils plus forts que les Aigles de Carthage? Le sélectionneur de la Tunisie, cette Tunisie qualifiée hier soir, devant Madagascar, je vous rappelle, sur le score de 3-0, eh bien le sélectionneur de la Tunisie, Alain Giresse, en a bien conscience des limites de son équipe au micro d'Antoine Grenier.
On est les premiers à battre Madagascar, mais il le fallait pour pouvoir se qualifier. Ça prouve la qualité de cette équipe dans cette compétition. Et donc, on est très satisfaits puisque ça nous propulse sur les demi-finales. Maintenant, évidemment, quand on est arrivé à ce stade-là que le pays, la Tunisie, attendait depuis de nombreuses années, c'était un souverain, c'était un objectif. Maintenant, c'est pas un objectif final. Il faut jouer cette demi-finale avec toutes nos armes, en essayant évidemment d'aller le plus loin possible. Voilà, donc on connaît l'adversaire, c'est ce qui nous attend. Et nous souhaitons évidemment finir en beauté cette compétition.
Une équipe de qualité, nous dit Alain Giresse, avec des Tunisiens quand même, Franck, qui reviennent de très loin. On rappelle qu'ils avaient échoué ces dernières années, enfin ces dernières CAN, à 5 fois hein, en quart de finale. Évidemment, en 2004, c'est eux qui gagnent le trophée, mais depuis, donc, ils échouaient. Est-ce que c'est un retour au sommet? Est-ce qu'ils représentent un gros danger pour le Sénégal?
Alors, il y a deux questions en une. Mm-hmm. Oui, c'est un retour au sommet. Le fait d'être dans le dernier carré, forcément, 15 ans après leur dernière apparition, c'est un bond en avant considérable pour cette génération-là. Elle n'a plus rien à voir avec celle qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations à Rades contre le Maroc, à sous Roger Le Maire, d'ailleurs, mm-hmm.
En 2004.
Voilà. Mm-hmm. Ils se sont effondrés entre-temps, il y a eu un vrai renouvellement, il y a eu de nouveau, il y a eu les arrivées sous Nabil Mahloul, puis maintenant sous Alain Giresse, mm-hmm. Donc il y a eu quand même du travail de fait. C'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts, mais c'est une équipe qui reste assez solide. En revanche, sur la menace qu'elle peut faire peser sur le Sénégal, c'est une équipe qui est un peu à deux vitesses. Alors, elle était très efficace en seconde période hier et très réaliste, mais en première mi-temps, elle n'y arrivait pas. Et ça a été le cas tout au long du tournoi.
Voilà,
du tournoi. Donc,
quand on voit
les individualités qui nous ont tellement plu du côté du Sénégal, quand on voit Ganagay, quand on voit Sadio Mané, quand ils sont lancés, cette vitesse d'exécution, on se dit qu'il faudra être extrêmement fort d'abord pour contrer ces individualités et puis d'aller leur marquer un but. C'est pas simple de marquer un but au Lion de la Teranga.
Xavier, est-ce que c'est un réveil des Aigles de Carthage, peut-être un peu tardif à ce stade de la compétition?
Le fait qu'ils soient en demi-finale, c'est une super performance. Franck l'a très bien expliqué. Rappelle quand même qu'ils étaient aussi à la Coupe du Monde il y a la saison l'an dernier. Et
5 c'était... buts. Tu te souviens, c'est l'équipe africaine qui a mis le plus de buts. 5 buts dans le tournoi.
Qui en a pris beaucoup aussi.
Ils en ont pris beaucoup, mais ils en avaient marqué 5.
Ils avaient pris 5 contre la Belgique. Mais donc c'est une équipe, on sait qu'il y a un réel niveau, une belle constance à ce niveau-là. Moi, ce que j'attends maintenant de cette demi-finale, c'est que a priori, on va avoir l'opposition de style rêvé. Puisque le Sénégal, c'est une équipe qui est capable aujourd'hui de prendre le jeu à son compte avec des attaquants de grande qualité. Et la Tunisie, en revanche, c'est une équipe qui sait très bien jouer le contre. Donc finalement, là où on pouvait avoir une demi-finale déséquilibrée, les spécificités de ces deux pays font que ça va être une demi-finale tout à fait incertaine.
Alejandro, l'heure pour les Lions de sortir leurs griffes là.
Je pense que quand même le Sénégal, pour moi, est nettement favori dans cette opposition. La Tunisie, certes, marque parfois des buts, mais elle le fait face à des adversaires qui sont faibles. Je me rappelle à la Coupe du Monde, c'était surtout Panama qui était quand même peut-être l'équipe la plus faible de la compétition. Et puis hier, c'était Madagascar qui n'a pas l'habitude d'enchaîner des matchs comme ça avec des joueurs qui n'évoluent pas dans des clubs où ils sont mis à l'épreuve tous les 3 ou 4 jours, donc qui étaient visiblement fatigués après les efforts de ces derniers jours et de la première mi-temps.
Et de leur vaillante campagne. Oui.
Je pense que face au Sénégal, la Tunisie aura bien plus de problèmes pour marquer.
Rémi, avantage au Lion de la Teranga ?
J'ai peur de le dire parce que au regard de ce que j'ai vu lors du match Algérie contre la Côte d'Ivoire, alors que je savais que le FNEC n'allait en faire qu'une bouchée, j'ai bien peur de dire que ce sera facile. Ce sera plutôt très difficile lorsque j'essaie de regarder le passé. Aujourd'hui, les gens oublient que le Sénégal n'a pas de Coupe d'Afrique des Nations et pourtant a toujours eu de très grandes équipes. Et s'il y a une bête noire...
Mais il y a un jour où ça peut arriver quand même, Rémi.
Attendez, Annie. Attendez. Il y a parfois des théorèmes qui, à force... Il y a parfois des choses qui, à force de s'exécuter, deviennent des théorèmes. Il faut savoir que le Sénégal a toujours eu les meilleures équipes contre la Tunisie qui, à ce moment où elle n'a pas une bonne équipe, c'est là où elle gagne. En 65, peut-être les gens oublient. En 65, quand la CAN.
On disait déjà que c'était pas la même équipe que
2015. Il faut toujours se baser sur ça. Parce que, je vais vous dire, vous allez voir que ça se ressemble. Parce que, à cette époque, c'est le Sénégal d'ailleurs qui devrait déjà avoir une CAN. Parce que la CAN de 65, c'est le Sénégal qui bat l'Éthiopie par 5-1. Et puis, l'Éthiopie par 5-1. Et puis, la Tunisie va aussi réussir un score de 4-0. Ogola Berrage, c'est parce que ça s'est désigné comme un championnat.
C'était différent.
C'était le Sénégal qui remportait. Mais la CAF avait décidé d'offrir la CAN à la Tunisie. Sénégalais étaient très fâchés. En 2004, ce que vous oubliez, c'est que le Sénégal a la meilleure équipe. Et ce Sénégal-là, c'est-à-dire que sort du où tout le monde dit « Oh, ils sont magnifiques avec Aladji Diouf, il y avait Camara, il y avait Pape qui avait marqué contre le Sénégal et tout, Pape Bouba Diop qui d'ailleurs sera remplacé par Mamadou Nia. » Mais qu'est-ce qu'on va voir ? En quart de finale, le Sénégal qui avait certainement, probablement, la meilleure équipe de toute son histoire s'est écroulée. Alors que la Tunisie, qui n'avait pas d'individualité, ils avaient à peine un joueur et demi. Cette Tunisie-là. Vous ne pouvez me citer que deux joueurs de la Tunisie de cette époque.
J'étais présent au match. Alors, je sais que c'est pas un argument, Rémi.
Mais est-ce qu'il y avait des stars en Tunisie comme
d'évoquer tout ça partout et tout le temps, il y a des surprises. Enfin,
pour vous dire que vous ne pouvez pas me citer les grandes stars qu'il y avait en Tunisie, mais le Sénégal n'avait que des stars. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Tunisie a remporté. Moi, j'ai dit très bien que ce n'est pas toujours les équipes pleine de stars qui remportent.
Non. Ça, c'est pas ce qu'on disait.
Aujourd'hui, la Tunisie ne réussit pas beaucoup au Sénégal. Et c'est de ça dont j'ai beaucoup peur pour les Sénégalais.
Eh bien, le match aura lieu à 18h, heure de Paris, au stade du 30 juin, du Caire. Ça sera dimanche 14 juillet, 16h, temps universel sur RFI.
Le Jirassico, comme... Oui, déjà été baptisé.
Oui, c'est une très bonne remarque parce qu'effectivement, Alain Giresse avait déjà dirigé les Lions de la Teranga et c'était en Guinée équatoriale en 2015. Et maintenant, il est à la tête.
Ça s'était pas forcément très bien passé pour lui. Et donc, effectivement, c'est un match. Il fait abstraction de ça forcément.
Je pense aussi.
Il est là pour autre chose et justement, lui, il est là pour peut-être essayer de piéger cette équipe du Sénégal. C'est tout l'intérêt aussi de ce match.
On a vu que son équipe s'améliorait au fil du temps, donc nous verrons. L'autre match opposera l'Algérie et le Nigeria.
Benyam, il sera certainement blessé.
Oui, ça c'est le problème des équipes dans ce tournoi. Il y en a qui ont perdu beaucoup de joueurs et c'est notamment déjà le cas du Sénégal avec son gardien. L'autre match opposera l'Algérie et le Nigeria. Donc le Nigeria régulier sous la houlette de Gernot Rohr après des années d'absence à la CAN. Mais ils retrouveront une équipe qui s'est invitée parmi les favoris. Et Andy Delors, le Fennec, l'Algérien, témoigne de l'ambition de son équipe au micro d'Antoine Grenier.
Il n'y a pas de secret pour aller au bout dans un tournoi comme ça, on est obligé de tout donner. Et quand on voit le peuple qui est derrière nous comme ça, on est encore plus obligé de se donner un maximum. On est fiers pour eux, pour nous. Et en tout cas, nous, il faut qu'on se concentre. On est content qu'ils fassent la fête. Mais notre rôle, c'est sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on va bien récupérer. On a un match très important dans 3 jours. Et pour qu'on fasse encore plus la fête dans une semaine, pour ramener la coupe à l'Algérie.
Il a failli dire ramener la coupe à la maison, hein, vous avez remarqué, je pense qu'il a écouté beaucoup la chanson l'année dernière. Ces Algériens, Franck, encore vous, qui ont un super mental pour être finaliste?
Oui, c'est ce qu'ils affichent en fait depuis le début du tournoi. C'est ce qui leur a permis aussi
de se qualifier hier soir.
Bon, même si c'est une loterie, les tirs au but, je ne vais pas revenir dessus. Mm-hmm. Non, c'est ce qui leur a permis déjà de remporter ce match de grand prestige contre le Sénégal. Ils avaient affiché un mental ce soir-là exceptionnel contre le Sénégal au premier tour. Ce match-là avait été le premier choc de la compétition. Avait vraiment montré des choses qu'on ne soupçonnait pas chez eux. Ils avaient su gérer, par exemple, certains temps faibles, etc. Et ils ont continué de surfer là-dessus, s'appuyer là-dessus. On l'a vu hier, parce que franchement, ils se sont fait bouger par les éléphants ivoiriens. Mais ils avaient d'autres ressources. C'est des ressources qu'on ne leur prêtait pas il y a 6 mois en arrière.
Oui.
Aujourd'hui, ils les ont. Ça rappelle un peu, de ce point de vue-là, l'équipe de 2010. L'équipe qui s'était qualifiée pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et pendant les éliminatoires, qui avait eu toute cette force, celle d'éliminer notamment l'Égypte, etc., en passant par un barrage. Et on retrouve
même
un petit
2014,
peu ça.
Cette équipe qui avait su tenir tête à l'Allemagne.
Là, il y avait l'alliage. Oui. Vous avez raison. Il y avait l'alliage à la fois de l'aspect technique, du jeu, et puis du mental. Mais là, le mental est encore plus important, je trouve, que ce qui n'a jamais été dans l'équipe d'Algérie. Et c'est vrai que ça fait deux on va dire maintenant des favoris naturels de cette Coupe d'Afrique.
Alejandro, des favoris par rapport à l'équipe, est-ce qu'a montré l'équipe de Guernot Rohr?
Je ne sais pas, parce que j'aime bien cette équipe de Nigeria, quand même, elle me plaît beaucoup, elle me plaisait déjà à la Coupe du Monde, malgré les insinuations de Rémi, c'est une équipe qui est...
Entendu, hein.
C'est une équipe qui est...
Fait semblant.
Qui a du jeu et qui a aussi un mental, je trouve que c'est quand même une équipe solide.
Quand elle est revenue au score, notamment contre le Cameroun, hein.
Absolument. Contre l'Afrique du Sud.
Même là, le but qu'ils prennent contre le cours du jeu ne les a pas fait baisser les bras. Ils ont réussi à marquer avant d'aller aux prolongations. Donc, ils ont eu un jour de repos supplémentaire et 30 minutes en moins et beaucoup de stress aussi en moins par rapport à l'Algérie. Et ça peut compter en fin des compétitions quand on arrive vraiment à un moment où les efforts sont quand même pesants. Et je pense que c'est une demi-finale beaucoup plus incertaine que la première. Mais personnellement, je verrais bien le Nigeria passer.
Rémi, alors vous qui êtes assis à côté du préfet, partagez-vous son opinion sur ce plan-là?
Je suis désolé de partager son opinion.
D'accord.
C'est un contre-cœur que je le fais parce que, en réalité, lorsque j'ai quand même vu cette équipe d'Algérie, il y a beaucoup de manqués. Surtout, je suis beaucoup surpris. On nous a beaucoup vanté Bounedjal qui a marqué 39 buts au Qatar. Mais ce mec, il a des pieds de palmipède. Ce n'est pas possible qu'il puisse être aussi maladroit. Lorsque je vois comment est-ce qu'il loupe des occasions, c'est pas possible. C'est bien beau de faire du giroud, de sauter, de courir, de barrer, mais c'est pas ça qu'on demande en avançant.
Le bon travail de Bogo quand même. Il a peut-être aussi empêché Bounja. Tu parles de la maladresse de Bounja, mais peut-être que Bogo est aussi pour quelque chose.
Oui, c'est vrai qu'il fait 2 arrêts, mais ce n'est pas sur Boumedia. Ce n'est pas lui qui fait la tête. C'est Slimani. Oui. C'est Islam Slimani qui fait la tête. Mais en dehors de ça, vraiment, je ne vois pas à quoi est-ce qu'il sert. Et la preuve, c'est que quand il est sorti, j'ai trouvé que Slimani trouvait mieux la profondeur. J'ai trouvé, par exemple, que même Mahrez, je me suis dit, mais attendez, comment est-ce qu'on remplace Mahrez? Mais attendez, l'équipe a encore mieux fonctionné.
C'est
donc,
une équipe qui a du banc, c'est ce
C'est une équipe qui a du banc, mais cependant, j'ai dit, le Nigeria est un diesel. C'est-à-dire que le Nigeria nous prouve ce qu'étaient les grandes équipes du Cameroun à l'époque, c'est-à-dire que ça commence mal, la compétition, et puis ça monte en intensité. Pour une équipe qui était privée de Victor Moses, qui est privée de Michael Obi, qui n'a pas sélectionné Eniacho, je me suis dit, ce Nigeria-là a été dépourvu. Mais quand je vois comment est-ce que c'est costaud, c'est solide, Chukwueze, qu'on est en train de découvrir actuellement, Moussa qui est très, très, très dangereux, et puis Ndindi, et tout ça, et Obi, on se dit quand même, Igalo, qui était déjà le meilleur buteur pendant la phase éliminatoire avec 7 buts, je vois comment est-ce qu'il pèse dans les défenses. J'ai dit, ils peuvent très mal faire à la défense des Fenex.
Ils peuvent surtout faire mal. Xavier, vous êtes plutôt Algérie ou plutôt Nigeria?
Sur ce que j'ai vu jusqu'à présent, l'Algérie. L'Algérie, c'est clairement l'équipe la plus aboutie de ce tournoi. Celle qui a le collectif le plus huilé, le plus sûr, les combinaisons de jeu les plus intéressantes. Là-dessus, il n'y a pas photo. C'est une équipe, en plus, si on regarde son parcours jusqu'à présent, Franck le rappelait tout à l'heure, ils ont battu le Sénégal lors du premier choc de la compétition au premier tour, qui est quand même le favori de la compétition. Donc, ils ont su dominer tous leurs adversaires. Ils n'ont encaissé qu'un seul but
hier soir.
La demi-finale face à la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que du coup, ça les a un peu ébranlés dans leur certitude, mais ils ont su trouver ces ressources pour aller se qualifier au tir but. Donc moi, je trouve qu'il y a un très bon groupe avec un entraîneur, Jamel Belmadi, qui était contesté au début.
Quand on met des ressources, ce n'est pas parce que un type qui a les cuisses en tronc d'arbre et qui vient là, il tape sur le poteau, vous dites qu'ils ont trouvé des ressources. C'est parce que, justement, quand vous mettez un Gaillard, comme cet avant-centre, donc je ne sais pas pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire continue. Attendez. Boni, c'est pas un footballeur, c'est un catcheur. L'Algérie qui a gagné ce match-là, c'est Boni qui a perdu ce match-là.
La Côte d'Ivoire a fait rentrer des joueurs avec une rage de vaincre incroyable pour ébranler cette Algérie. Elle a réussi à marquer ce qui est déjà un exploit dans ce tournoi parce que l'Algérie n'avait pas pris un seul but. Mais derrière, l'Algérie a su faire
une boutique. On aurait même pu marquer dès les 20 premières minutes, peut-être 2 buts. Hein.
Non, l'Algérie a su contenir. Et l'Algérie a contenu tous ses adversaires d'Afrique noire dans le tournoi. Le Sénégal au premier tour, la Guinée en huitième de finale, la Côte d'Ivoire en demi-finale. En quart de finale. Donc c'est une équipe qui, je pense, saura aussi comment s'y prendre face au Nigeria.
Égalité dans ce studio entre Algérie et Nigeria.
Une petite poussette de l'arbitrage éthiopien hier quand même un petit peu. Qui a fermé les yeux sur certaines fautes algériennes. Ça les a aidés à aller au moins jusqu'à la séance des tirs au but.
Il y avait la VAR.
Ouais, mais là, la VAR n'a pas fonctionné, c'est curieux.
Une question d'un auditeur hier, Xavier, et je vous la pose. Pourquoi tous les arbitres ne vont pas voir les écrans lorsqu'il y a intervention de la VAR?
Parce qu'ils ne sont pas obligés. C'est l'arbitre vidéo qui les informe dans son oreillette.
Et s'il les croit.
Il leur dit, l'arbitre vidéo, c'est lui qui juge de l'opportunité de les alerter. Et qui est l'arbitre de centre, soit fait confiance aveuglément, si vous me permettez l'expression, à l'arbitre vidéo, et donc suit l'arbitre vidéo, qui va lui dire il y a pénalty ou il n'y a pas pénalty, par exemple, il le suit, ou alors il veut se faire sa propre opinion lui-même, et il va aller vérifier. Ça mais c'est absolument pas une obligation.
Il n'y avait pas la VAR, il y avait téléphone. Voilà.
Non, mais si l'avis qu'il reçoit va dans le sens de ce qu'il avait tendance à sentir, il va faire confiance. Si l'avis est contradictoire, il aura peut-être plus envie d'aller vérifier.
Voilà, cher auditeur internaute, la réponse à votre question. Alors, avec l'Algérie, ce qui est sûr, c'est que les tribunes ne sont pas tout à fait vides. Il y avait déjà pas mal de supporters pour ce match hier. Quelques vols avaient été affrétés pour le quart de finale. Et apparemment, écoutez le ministre des Sports algérien, il promet d'autres vols pour la demi-finale. Raoul Bernaoui au micro d'Ousmane Dabo.
Là, on va voir selon les capacités, mais c'est ce qui sera sûr. Ça sera des milliers. Parce que du moment qu'il y a des avions, et je peux donner même la nouvelle qu'il y aura même des gratuités, c'est-à-dire ce qui concerne les futurs déplacements. Du moment qu'il y a une volonté politique de l'État algérien de transporter les supporters, et je pense qu'il faut être discipliné, suivre les consignes. On fera tout, on va rentrer, on va revenir, on va gagner, on va prendre la coupe.
Raouf Bernaoui, donc le ministre au micro d'Ousmane Dabo, l'un de nos envoyés spéciaux du côté de l'Algérie. C'était à Suez. Il y a eu beaucoup de manifestations aussi dans la France. La passion, c'est peut-être aussi la pression sur cette équipe d'Algérie et c'est peut-être quelque chose de négatif, Xavier.
Je pense pas. Je pense qu'ils ont vraiment l'habitude. On sait que là-bas, le football, c'est la folie complète. Et puis, il faut rappeler quand même le contexte politique en Algérie. Mm-hmm. Très compliqué actuellement.
On en a
et
beaucoup donc, parlé hier
voilà,
dans Radio Foot. Hein.
Ces résultats d'El Kadra, des Verts, c'est un gros soulagement pour le pouvoir politique parce que ça détourne complètement la passion populaire des manifestations qui a pu avoir lieu tout le printemps vers le soutien à l'équipe nationale. Donc, on comprend que le gouvernement, du coup, mette à frais des avions gratuits pour envoyer les supporters dans les stades du Caire.
C'était déjà le cas dans d'autres circonstances, même du temps de l'ancienne gouvernance, hein, parce que en 2009, quand t'as le match de barrage entre l'Égypte et l'Algérie, ça se joue à Khartoum, au Soudan, et il y a des milliers et des milliers d'Algériens qui montent dans des avions affrétés par le pays pour aller supporter à Khartoum l'équipe nationale. Donc voilà, c'est valable
contre l'Égypte. C'était plus compliqué, mais on l'a fait
quand même.
Oui, ils vont en Égypte dans un pays où l'équipe nationale n'est plus qualifiée. Et donc, il y a une forme de neutralité de l'Égypte qui peut arranger l'Algérie.
En tout cas, ce trop de passion a créé des accidents et des incidents en France. La nuit dernière, une personne a été tuée dans un accident provoqué par la voiture d'un supporter algérien, des magasins vandalisés à Paris, et puis le périph' bloqué en pleine nuit par les supporters heureux de manifester leur joie, les Algériens, alors espérons...
C'est la joie ou c'est la colère?
Parce que finalement... On ne s'est pas tranché, Rémi. En tout cas, on espère que tout se passera bien dans la nuit du 14 juillet. Nuit où se déroulera le match. 14 juillet, tiens. Entre le 12 et le 15 juillet, deux dates inoubliables pour le football français.
L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, deux buts de Zidane, un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
Nous sommes, ils sont, tous ensemble, la France entière est championne du monde de football.
Bienvenue en Russie, les amis.
Encore un dégagement qui sépare les Français du bonheur. Et le dégagement, c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Les Bleus sont sur le toit du monde.
Et la coupe à la maison. Allez les Bleus, allez. 20 ans après, c'est
un anniversaire donc aujourd'hui, 21 bougies sur le gâteau, 21 bougies et une étoile, alors que lundi ce sera une bougie et deux étoiles. C'était juste pour vous rafraîchir la mémoire et pour aussi évoquer un champion du monde. Un champion du monde qui aujourd'hui s'illustre, Antoine Griezmann, dans l'actualité, un an après sa fameuse décision. Hein, vous n'avez pas oublié le numéro 7 de l'équipe de France qui joue à l'Atlético Madrid, qui pensait changer de club et qui finalement était resté dans son club de l'Atlético. Cette fois, c'est adios, colchoneros.
J'ai pris la décision de partir, de voir autre chose, de relever d'autres défis. J'ai vécu 5 années formidables ici à l'Atlético. J'y ai gagné mes premiers titres en club, mes premiers trophées. Merci du fond du cœur et à bientôt.
Alejandro Valente, ça fait à peu près un an que vous nous annonciez que Grisou serait Blaugrana. C'est fait.
Bah oui, finalement, je pense qu'il n'a pas tardé à comprendre que sa décision de l'année dernière était une décision erronée et que...
Vous pensez que ça a été une erreur?
Oui, absolument, je pense. Je pense qu'il s'est laissé probablement à la fois grisé par les promesses de l'Atlético qui avait augmenté considérablement son salaire et puis qu'il a eu peur peut-être de franchir le pas et de se retrouver dans un Barça où il aurait peut-être du mal à s'imposer, à exercer tout son talent. Les événements de la dernière année lui ont montré quand même que Barcelone lui offre davantage de garanties pour remporter des titres et pour progresser. Et je pense qu'il l'a bien compris. Et c'est une très bonne nouvelle. Je crois que Messi et Griezmann vont former un duo fantastique.
Rémi?
De toutes les façons, je suis perplexe. Perplexe parce que quand il est en train de parler de ça, il oublie que Griezmann a fait cette annonce à travers la société de Piqué. Donc, l'année dernière. Donc, son projet, c'était Atlético, il était la plus grande star. Là maintenant, il devient le porteur de sac de Lionel Messi, ce que beaucoup d'autres ont essayé de faire, n'ont pas eu à briller. Donc c'est encore un autre serviteur qui va là.
Les joueurs qui jouent avec Messi,
donc de toutes les façons.
Il va jouer avec le meilleur joueur du monde.
Ah oui, Neymar lui aussi, il a joué avec Messi. Il disait même que c'est là-bas. Il devait aller remporter.
Et il veut
d'abord le son ballon d'or et tout, mais bon, ça n'a pas marché. Et puis, une fois de plus, comment sera l'accueil? Parce que j'ai quand même vu au niveau des sondages que beaucoup de sociaux ne voulaient pas que Griezmann signe au Barça. Maintenant, et d'ailleurs Carlos Puyol a dit que ça risque d'être un couteau à double tranchant. La preuve, il devait être présenté de façon officielle, mais qu'est-ce que les dirigeants du Barça disent maintenant? Oh non, le Camp Nou sera en réflexion, donc subitement Griezmann va se retrouver uniquement à l'entraînement, sans l'ombre d'un doute, lundi le 15, à la reprise. Il ne sera donc pas présenté publiquement. Sous les sifflets, et de toutes les façons, et chaque fois qu'il va rater une action, on ne va jamais le lui pardonner. Et il y a un proverbe africain qui dit « On ne jette pas la poubelle dans une maison où on ira habiter. »
Il faut rappeler le contexte. Il y a un an, ou presque un an, quand on se retrouvait pour parler de la Liga qui allait commencer, quel était le club qui était le plus souvent cité comme favori? Le Real? Non. Zidane venait de partir, on disait c'est la fin d'une époque. Le Barça? On avait des doutes. Le favori, c'était l'Atlético. Il faut rappeler que tout le monde s'attendait à ce que l'Atlético soit champion. C'était la grosse équipe dans son nouveau stade, avec un Griezmann réévalué. Et donc, c'était le projet. Et quelque part, c'était assez cohérent que Griezmann reste à l'Atlético. Finalement, ça a été un échec, il faut bien le dire. Ils ont terminé deuxième du championnat. Ils ont été éliminés dès les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et ça a été un échec. Qu'est-ce qui se passe cet été à l'Atlético? Griezmann s'en va. Godin, le capitaine emblématique, est parti. Rodri à Manchester City. Lucas Hernandez pour 80 millions au Bayern de Munich. Diego Costa, on l'a plus vu depuis un moment. Donc, c'est la fin d'une époque à l'Atlético. Et Griezmann, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va participer à un nouveau projet à Barcelone. Moi, je trouve ça plutôt ambitieux de sa part, de se relancer en acceptant d'aller jouer aux côtés de Messi. Parce qu'il faut pas oublier que le meilleur Barça de ces dernières années, ça a été quand il y avait Neymar aux côtés de Messi et Luis Suarez, bien sûr. Or, aujourd'hui, on voit bien que quand Messi est bien verrouillé par les adversaires, que Suarez est un petit peu en deçà, et ben Dembélé, Philippe Coutinho, ça fait pas l'affaire. Donc, on essaye avec Griezmann et peut-être que c'est Griezmann qui sera... contrairement à ce que tu insinues, Griezmann relève un défi extraordinaire. Un défi extraordinaire, arriver à faire gagner la Ligue des Champions au Barça, aux côtés de Messi.
Mais oubliez, c'est un super défi. Le Barça, depuis 120 ans, à 5 Ligues des Champions, comme Cristiano Ronaldo.
Millions, 120 millions, attendez, c'est la cause 120 de récession.
J'ai dit, non, le Barça, depuis 120 millions d'existence, à 5 Ligues des Champions. Donc, quand Griezmann va là-bas, il sait d'ailleurs qu'avec l'Atlético, c'est lui qui éliminait toujours le Barça. Donc, l'année prochaine, c'est l'Atlético qui va encore éliminer Barça et Griezmann, puisque le Barça ne gagne jamais la Ligue des Champions.
On en reparlera, mais je pense que nos auditeurs ont bien entendu ce que tu dis, parce que franchement, on en reparlera.
Moi, j'aimerais que tu te souviennes de la dernière Ligue des Champions du Barça.
J'aimerais bien écouter Franck. Franck, qu'est-ce que vous en pensez de Griezmann qui va former, qui sait, la MSG, donc il va jouer avec Messi et puis Suarez en attaque. Et il y a d'autres attaquants dans cette équipe, parce qu'on a aussi, théoriquement, on a Dembélé, on a Coutinho et Malcolm. Encore sur le papier.
Ça ne ressemble pas à une surprise, c'était attendu. Mm-hmm. On a juste patienté, comme l'a dit Alejandro.
Un an.
Donc on sentait que c'était dans les cartons, dans les tuyaux, c'est arrivé. Maintenant,
c'est toujours d'actualité.
Bien, non, mais au-delà des
on
qualités...
On a toujours besoin de lui.
Au-delà des qualités du joueur, on parle du joueur de club, on ne parle pas celui qui est en équipe de France. Voilà, on connaît toutes ses qualités, on sait ce dont il est capable. Moi, j'ai pas les certitudes que par exemple peut avoir Alejandro par rapport au binôme ou au trio qu'il va former. Voilà, je suis interrogatif comme Rémi. Ou un quatuor. Oui, voilà, on n'a plus besoin de jouer avec des milieux de terrain maintenant. Voilà, ça va être là. C'est peut-être ça le nouveau projet d'ailleurs du Barça. Mais alors que c'était sa force avant ce milieu de terrain. Mais voilà, moi je suis comme Rémi, je m'interroge. Voilà, est-ce qu'il va pas jouer les porte-flingues d'un Lionel Messi qui est tout puissant, parce que c'est ça. Mais oui, c'est
il va
aujourd'hui.
Être pistolero,
il va être le pistolero. Il va être là pour la glisser à Messi. J'espère que lui aussi, si vous voulez, pour faire les choses un peu plus courtes, il aura sa petite part du gâteau dans cette histoire.
Et voilà, je ne souhaite pas que sans aller par exemple au Barça, il discutait quand même le podium du Ballon d'Or avec Messi et Cristiano Ronaldo. Cette fois-ci, c'est terminé. C'est
et avec
terminé.
Modric. Et avec Modric.
Oui, on verra ça.
Surtout, on verra ça.
Alors, et Neymar dans tout ça, parce qu'évidemment, dans vos propos, on sent poindre le nom de ce personnage. Alors, du fond de son exil volontaire, on va dire, puisqu'il ne s'est toujours pas présenté à l'entraînement au Paris Saint-Germain, mais il est toujours au Brésil. Le joueur du PSG, toujours, a parlé à une chaîne brésilienne aujourd'hui, Alejandro. C'était sur Bandeirantes ce matin. Pas véritablement de révélation, mais quand même, il a exprimé haut et fort devant une caméra de télé. Je me souviens que Carlos Bianchi disait, mais il l'a dit, il l'a pas dit. Oui, il l'a dit. Il est vrai que je souhaite de quitter Paris, a-t-il dit. J'ai informé Leonardo de mon absence à la reprise du groupe et je l'ai appelé personnellement. Et il explique qu'il aimerait quitter le Paris Saint-Germain, qu'il aimerait retourner à Barcelone, mais que si ce n'est pas possible, il portera le maillot du PSG avec un grand plaisir.
Oui, disons que bon, ce qu'on sait, c'est que Neymar vient de porter pendant 2 années le maillot du PSG. Pour avoir la possibilité d'obtenir une libération éventuellement forcée par la FIFA, il faudrait qu'il boucle une 3e saison. On sait que l'année prochaine, il pourrait partir pour 170 millions d'euros s'il le souhaite. Donc, ce qu'il veut, c'est simplement avancer l'échéance d'une année, convaincre le PSG de bien fonder l'idée de le laisser retourner à Barcelone. Et Barcelone, pendant ce temps, le club regarde, il s'est dit que pour 170 millions, et surtout s'il peut mettre dans l'opération un ou deux joueurs, ça pourrait lui convenir, mais qu'il n'est pas demandeur, qu'il a déjà les attaquants qu'il lui faut, et que si Neymar vient, ce sera un peu la série sur les gâteaux, mais que s'il ne vient pas, c'est pas du tout un problème pour Barcelone. Donc Barcelone a plutôt le beau jeu, alors que le PSG se retrouve avec toute la pression d'un joueur qui veut partir.
Juste une question, Xavier, quelle est l'importance de cette déclaration de la part de Neymar?
Il dit... officiellement, devant les caméras, ce qu'on pouvait lire un peu partout et ce qu'on savait. Donc aujourd'hui, le fait qu'ils le disent, effectivement, ça met, comme l'expliquait très bien le préfet, le PSG complètement en porte-à-faux. Comment garder sa star, enfin l'une de ses stars?
Ils lui ont dit aussi, si t'es pas content, tu t'en vas. Hein. C'est un peu ce que lui avait dit Nasser.
Tu vas pas partir comme ça. tu vaux 222 millions d'euros, donc le PSG, même si le Qatar a beaucoup d'argent, mais ils sont soumis au fair-play financier, va vouloir récupérer sa mise. Donc voilà.
Du coup, un joueur qui sort des 2 saisons compliquées avec des blessures, etc. Forcément, sa valeur n'est plus la même.
En tout cas, on a bien remarqué que Xavi, l'ancien Barcelonais qui a joué à un moment avec Neymar, a dit « Bien sûr que ce serait une bonne recrue. Et il n'y a pas de doute qu'il est un footballeur capable, comme Griezmann, de faire la différence. C'est un numéro 10 spectaculaire. » Il dit que ça serait bien qu'il revienne au Barça. Oui. Maintenant, il n'est pas sûr.
D'ailleurs, l'année dernière, il ne valait pas déjà 222 millions. Le problème, c'était que c'était le montant de sa clause libératoire et que le PSG était obligé de payer cette somme pour pouvoir l'avoir.
Le faire venir.
Mais c'était un montant
inflation
qui était
totale.
Excessif par rapport à ce qui est
sa valeur vraiment du réel de
voilà.
Du moment. Quoi.
Et donc aujourd'hui, 222 millions, ça n'a aucun sens.
Allez, dernière partie de ce Radio Foot International avec un hommage à un grand joueur.
Casablanca. Karim es un jugador diferente, es un jugador que es verdad no va a marcar 50, 60 goles.
La faute de Karim Benzema. Quel but de Ronaldo magnifique pour Karim Benzema. Golazo du Real Madrid. Quelle action!
Ça fait je sais pas combien d'années qu'il est là, je sais pas combien de buts il a mis, il faut qu'il continue, qu'il machin, et que surtout ce qu'il fait, il le fait pour lui, pour l'équipe.
Quatre cent soixante 45 matchs, 222 buts, 7 trophées, dont 4 Ligues des Champions en 10 ans. Voilà le bilan d'un joueur devenu historique à la Maison Blanche. Karim Benzema, souvenez-vous lors de sa présentation, 9 juillet 2010.
Karim Benzema, bienvenido a tu nueva casa, bienvenido a tu querido Real Madrid.
Pardon, no hablo muy bien español. Soy muy feliz por el jugar del mejor club del mundo. Un, dos, tres, a la Madrid.
À la Madrid. Alors depuis, il a beaucoup progressé en espagnol depuis 10 ans, Karim Benzema. Et il y a quelqu'un qui est très heureux, vous allez l'entendre, de le retrouver sur le terrain et de jouer avec lui. C'est la nouvelle recrue de ce Real Madrid version Zinedine Zidane, Eden Hazard.
C'est pour moi le meilleur attaquant du monde, le meilleur numéro 9 du monde en ce moment. Donc jouer avec lui, s'entraîner avec lui, je pense que moi aussi ça va me permettre d'évoluer mon niveau. Bien sûr qu'on s'imagine faire des 1-2 ensemble et tout, mais j'espère avoir une belle entente en dehors du terrain, sur le terrain, pour que lui marque des buts, pour que je marque des buts, pour que tout le monde marque des buts et que tout le monde soit content.
Rémi, alors elle n'est pas de moi, elle est de Pierre Guérin, mais est-ce que le hasard fait bien les choses?
Le hasard fait beaucoup de choses lorsque vous avez du talent. Parce que
Karim Benzema, ça va être la tour sur laquelle va s'appuyer le leader sur lequel va s'appuyer Zidane pour monter ce nouveau Real.
C'est normal parce que de toutes les façons, il faut savoir que Karim Benzema, plus que beaucoup de joueurs, ce que les gens ne savent pas. Et peut-être même pour Pérez, dans la tête de Pérez, les gens s'imaginaient que ce sera Gareth Bale qui viendra remplacer Cristiano Ronaldo, mais Pérez prend Benzema comme son fils. Il faut quand même se rappeler que quand Benzema est sollicité par Barcelone et par Manchester United fait quand même une proposition de 45 000 euros à Aulas. Mais Pérez se déplace.
45 000
45 millions, plutôt. Ah bon. 45 millions d'euros. Ouais. 45 millions d'euros. Mais Pérez s'est déplacé en jet privé pour venir voir Aulas. Et les parents de Karim Benzema, il a dit « Tu es mon fils, quoi qu'il arrive. » Il a payé 35 millions d'euros, alors que les autres proposaient 45 millions d'euros. Donc il est parti. Quand il arrive au Real, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est le seul aujourd'hui, et je dis bien, c'est pour moi, le joueur le plus important de l'histoire de toute la France. Parce que, on va me dire, les grandes stars de la France, c'était qui? C'est Copa. Copa est parti remporter combien de Ligue des Champions avec le Real? C'est 3. Donc, et bien évidemment, Zinedine Zidane a remporté une avec le Real. Il y a aussi Platini qui a remporté avec la Juve. Mais Karim Benzema en est à 4 aujourd'hui. Donc, pour moi, Karim Benzema, c'est un homme qui n'est pas reconnu en France, mais qui est reconnu à l'extérieur, et particulièrement à Madrid. C'est le toit de la Maison Blanche.
Alejandro Valente, le toit de la Maison Blanche, il tient toujours.
Ça paraît bizarre. J'entendais Eden Hazard dire que c'est le meilleur attaquant du monde. Je pense qu'il est obligé de le dire, parce qu'au Real Madrid, on doit toujours dire ça. Si c'était Mariano, il aurait dit Mariano est le meilleur attaquant du monde.
On constate que malgré le meilleur attaquant du monde, le Real Madrid n'est pas champion d'Espagne cette année et n'a pas gagné la Ligue des Champions non plus.
Il ne l'a pas conservé.
Je peux ne pas être champion de mon village, mais si je suis champion de France, on constate c'est plus valable.
Que Benzema est un super attaquant. C'est un super attaquant, mais c'est pas Cristiano Ronaldo. Je suis surpris que ta passion pour le Real Madrid, Rémi Ngono, te fasse perdre ta lucidité au point de ne pas dire que c'était quand même Cristiano Ronaldo qui était le toit du Real Madrid, quatre fois vainqueur de la Ligue des Champions en 5 ans.
Il change souvent d'avis, on sait, mais là c'est quand même une négation historique de Pérez, parce que Pérez s'est débarrassé de Cristiano Ronaldo. J'ai dit dans la tête de Pérez, pour moi Pérez, il n'y a pas comparaison entre Cristiano Ronaldo et Benzema, entre même Cristiano Ronaldo et Messi, il n'y a pas comparaison. Cristiano Ronaldo, c'est le top du top. C'est comme on le dit, la Christ. Et c'est à peu près le sauveur.
Le clocher.
Le clocher sur le toit. Donc c'est comme ça.
Bon ben on verra donc si Zinedine Zidane s'appuie sur ce joueur.
Sur son toit,
il
faut faire attention de ne pas le traverser. Le
Exactement, mais c'est important solide. Pour se mettre à l'abri.
On vérifiera les taux d'alcoolémie des Rémi en sortant.
Rémi est sa place. J'ai retour au bar et il vient vérifier mon taux d'alcoolémie.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Très animé. Merci beaucoup, messieurs. Merci aussi à Swell Kedir, à Laure Tamperville et à Cyril Etienne, l'équipe vidéo, grâce à qui vous pouvez nous voir et nous admirer sur Facebook Live. Merci aussi à Alice Ménard qui était aujourd'hui à la réalisation, aidée de Laurent Salerno, bien sûr, évidemment. Merci à David Finzel et Pierre Guérin. À demain.